c'est ça. Ce n'est pas un agenda. C'est plutôt une mission, un engagement.
Il faut forcer les gens à venir dans la rue, se rendre compte justement par eux-mêmes et qui regardent justement tous les médias indépendants.
Parce que vous avez vous aussi envie d'avoir un agenda.
Évidemment, évidemment, évidemment.
Allô, allô, la Terre, il est midi, c'est l'heure de l'agenda sur FPP. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, l'agenda est l'émission qui relaie les rendez-vous culturels et militants en Île-de-France. Une émission que vous retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, de midi à midi 30. Si vous voulez nous envoyer des infos ou simplement nous joindre, écrivez-nous au 1 rue de la Solidarité, dans le 19e à Paris, ou appelez-nous au 01 40 05 03 70 et envoyez-nous des mails à l'adresse agenda@rfpp.net. Pour intervenir en direct, composez le 01 40 05 06 10 et pour réécouter toutes les émissions ou avoir accès aux infos pratiques des événements dont on parle, rendez-vous sur le site agenda.rfpp.net. Notre invitée du jour est Paola Anacaona. Bonjour à toi.
Bonjour Claire.
Pour soutenir les manifestants arrêtés du 1er mai, rendez-vous à 13h30 au Nouveau Palais de Justice dans le 17e arrondissement de Paris. Et contactez les organisateurs à l'adresse suivante stoprepression@rizop.net si vous connaissez des personnes relâchées ou différées, ou si vous souhaitez également les joindre. Le Nouveau Palais de Justice est situé au 29 45 avenue de la Porte de Clichy, métro RERC, Porte de Clichy. Rassemblement en hommage aux victimes du massacre d'Ouvéa à 18h ce soir. Kanaky, mai 1988, mai 2018, 30 ans pour accéder à l'indépendance. À l'approche du référendum sur l'accession à la pleine souveraineté et à l'indépendance de la Kanaky Nouvelle-Calédonie, qui se tiendra le 4 novembre prochain sur le territoire. Une possibilité pour le peuple kanak de fermer la longue parenthèse de la colonisation française est en effet l'ultime étape d'une longue lutte kanak. Aujourd'hui, il est important de rappeler la mobilisation de 1988, d'honorer la mémoire de celles et ceux qui sont tombés dans ce combat collectif pour l'indépendance, qui a pu arracher à l'État un processus de négociation, débouchant sur les accords de Matignon ou d'Oudinot, juin et août 88, puis sur l'accord de Nouméa en 1998. Ce dernier engageant le processus de décolonisation progressive qui devrait s'achever cette année. Pour soutenir l'indépendance kanak, rendez-vous à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, l'ex-musée des colonies, au palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, métro Porte Dorée, dans le 12e arrondissement de Paris. Plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques comoriens et du gouverneur d'Anjouan, Dr Salami Abdou, organisent une conférence de presse aujourd'hui à partir de 17h à l'hôtel Concorde Montparnasse, 40 rue du commandant René Mouchotte, dans le 14e arrondissement de Paris. Cet événement s'organise suite aux derniers événements qui se passent aux Comores. Arrestation arbitraire, torture des élus, suspension de la Cour constitutionnelle, convocation d'un référendum anticonstitutionnel, dislocation de l'Union des Comores, responsabilité politique empêchée de quitter le territoire et bien d'autres événements encore. L'objectif est de défendre le respect des droits de l'homme, de la démocratie, des institutions, des libertés de presse, d'opinion, d'expression, de circulation sur les quatre îles de l'archipel et l'intégrité territoriale des Comores, qui sont mises en danger par le pouvoir totalitaire et dictatorial du colonel putschiste Azali Assoumani. Les amis de la Roya se réunissent ce soir à 18h30 au 21 Terre rue Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris, pour discuter et réussir le festival des passeurs d'humanité prévu du 12 au 15 juillet prochain dans la vallée de la Roya. A noter qu'ils ont besoin de connaître le nombre de personnes désirant être bénévoles cet été pour bien les héberger et s'organiser. Vous êtes donc les bienvenus si vous souhaitez y prendre part. À partir de 19h ce soir, à la bibliothèque associative de Malakoff, la BAM, projection et débat autour du film Danand Patwardhan, A Norwadan Diary, avec la participation de Joël Caballion, sociologue. Une soirée consacrée à l'Inde en résistance. Ce documentaire retrace les luttes du mouvement Sauvons la Narmada, qui a eu lieu dans les années 90. Militant initialement en faveur des meilleures politiques sociales pour les populations tribales déplacées, le NBA est devenu emblématique de la résistance indienne contre les grands barrages et le paradigme dominant du développement économique. Le début de la projection est fixé à 19h45, mais vous êtes toutes et tous conviés au buffet participatif qui la précède à partir de 19h. Et pour vous rendre à la BAM, c'est au 14 impasse Carnot à Malakoff, dans le 92, métro Malakoff, rue Étienne Dolé. Ce soir, des concerts de soutien aux cheminots sont organisés dans le 93. Le premier commence à 19h et aura lieu à l'Université Paris 8 à Saint-Denis dans le 93, aux 2 rues de la Liberté, métro Saint-Denis Université. Et le second est à 20h à la Maison Ouverte de Montreuil, 17 rue Hoche, métro Mairie de Montreuil. Venez nombreuses et nombreux. N'oubliez pas la grande fête à Mâcon. Le rassemblement est prévu à 14h, place de l'Opéra. Au programme, des pique-niques et des concerts au départ et à l'arrivée. En ce moment même est organisée demain à midi, une manif pot-au-feu, un pique-nique au Louvre pour se donner la force. Un petit mot sur le turfu pour se motiver. Quoi, on ne sait pas, ou pas encore, mais autre chose que cet économisme étroite, cette bureaucratie qui contrôle, qui manage, qui évalue sans relâche, qui maltraite, et qui ne connaît rien d'autre que ses ratios. On a envie de respirer, et qu'en ce printemps, rassemblés, on sente notre force bourgeonnante. Il y a autre chose aussi, moins visible, plus souterrain, mais plus massif, plus explosif, un vaste désir d'autre chose. Partout ça résiste, les cheminots évidemment, les facs également, Air France, les hôpitaux, les EHPAD, les éboueuses, les caissiers, les électriciennes, les femmes, les racisées, les chômeuses. Si ce ruisseau de colère convergeait, quel fleuve puissant ne formerait-il pas ? Oui, Sémi me dit que nous avons un appel tout de suite en direct sur FPP. Allô ?
Allô, oui.
Oui, bonjour. Je vous entends.
Allô ?
Oui, bienvenue sur les ondes. Vous êtes en direct sur FPP ?
Oui, je suis docteur Adam Djemi.
Oui.
Comment ?
Oui.
Je vous appelle au sujet d'un...
Du rassemblement des Comores qui serait à 17h ce soir, c'est ça ?
Oui, oui. C'est une conférence de presse, meeting, quoi. Avec la présence du gouverneur de l'île d'Anjouan.
C'est ça.
Vous savez, est en conflit sur les dispositifs constitutionnels qu'a pris le président des Comores Donc, il a envie de venir expliquer tout ça à la presse internationale.
D'accord. Et ce rassemblement, il sera du coup au Palais de la Porte Dorée, c'est bien ça?
Non. Ça sera dans une salle à l'Hôtel Concorde.
Ah, c'est à l'Hôtel Concorde, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce rassemblement de presse? Est-ce que tout le monde y est convié?
Comme je vous ai dit au préalable,
oui.
C'est dû à ce qu'il y a un président aux Comores qui a été élu démocratiquement avec l'appui du grand parti politique qui s'appelle Joua, sous la présidence honorifique de l'ex-président des Comores qui se nomme Ahmed Abdallah Sambi. Ce dernier, au bout de 2 ans, c'est-à-dire le président actuel de Comores, au bout de 2 ans, comme il a concocté un plan machiavélique pérennisé au pouvoir à vie, donc s'est désolidarisé avec le parti au pouvoir, avec oui. le parti qu'il a aidé, et il a pris d'une façon ostentatoire et criminelle, je peux dire, les dispositifs politiques pour changer la constitution. Il a aboli la Cour constitutionnelle, il a mis en place ce qu'on appelle une Cour suprême, il a transféré les prérogatives de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, laquelle les nominés à cette Cour suprême, ce ne sont que ses amis. Donc ces derniers vont l'aider d'une façon soi-disant, entre guillemets, légale, de faire un référendum qui se tiendra au mois de juillet, pour changer la Constitution. Voilà.
Très bien. Et la conférence de presse parlera de ça ce soir.
Voilà, il parlera exactement de ça et puis de l'actualité, parce qu'il y a des parlementaires qui sont contre. On a le Congrès aux Comores qui rassemble les députés de l'Assemblée nationale et les conseillers des îles ont un quorum de 2/3 pour contrecarrer les idées de ce président, les idées politiques et ses desseins politiques. Mais par la force des armes, il passe outre et donc il va passer par la force à vouloir changer la Constitution.
C'est bien ça. Alors,
donc
ce sera...
nous aimerons, dans ce processus, alerter l'opinion internationale, parce que les Comores, c'est un petit pays malgré tout, mais où se passent beaucoup de choses. Vous savez très bien qu'en ce moment aussi, l'actualité des Comores, c'est le conflit entre la France et les Comores oui. à propos de Mayotte.
Oui.
Donc, toutes ces questions seront évoquées dans cette conférence.
Ce soir, du coup, à 17h, à l'hôtel Concorde Montparnasse, qui est 40 rue du commandant René Mouchotte, dans le 14e à Paris.
Exactement.
Merci beaucoup pour votre intervention sur FPP.
Merci, madame.
Merci à vous.
Allez.
Au revoir. Bonjour Paola.
Bonjour.
C'est à nous, bienvenue sur les ondes.
Merci de m'accueillir.
Vous êtes traductrice, éditrice et auteure et vous êtes aussi notre invitée aujourd'hui pour nous parler des éditions Anna Kaona.
Exactement.
Alors c'est une maison d'édition qui a été créée en 2009 par vous-même et qui est spécialisée en littérature brésilienne et plus spécifiquement en littérature marginale, engagée dans des questions de mixité, de diversité.
Exactement.
C'est bien ça.
Ouais.
Et je vois que depuis 2009, l'activité est très, très en... Il y a une grande activité, voilà, avec plusieurs collections qui sortent régulièrement et une toute nouvelle qui est sortie la semaine dernière, donc un ouvrage qui se nomme « Je suis encore favela », qui est la dernière parution de votre maison d'édition.
Exactement.
Je vous laisse la parole.
Donc voilà, donc en fait, j'ai créé les éditions Anna Kaona fin 2009. En fait, j'avais vraiment envie d'apporter un petit peu de diversité dans le paysage littéraire français, que je trouvais quand même assez blanc, assez classe moyenne et toujours un peu autour des mêmes thématiques. Donc, vu que j'allais au Brésil très souvent, en fait, j'assistais depuis une dizaine d'années à un phénomène qui, là-bas, a vraiment explosé à partir du début des années 2000, qui est le phénomène de littérature marginale. Donc c'est marginal, c'est pas du tout le sens péjoratif du mot, c'est vraiment la littérature des gens qui sont à la marge. Donc ça peut être la marge géographique, évidemment, les gens qui sont dans les banlieues, dans les favelas, mais c'est aussi la marge ethnique, ceux qui ont la couleur de peau qu'on voit pas forcément dans les médias, ça peut être la marge sexuelle, donc avec des histoires d'homosexuels, de travestis, voilà, c'est tous ceux qui sont un petit peu différents, tous ceux qui sont exclus. Pendant très longtemps, au Brésil, on les appelait les sans-voix, qui est une expression que j'aime pas du tout, parce que c'est des gens qui ont toujours eu une voix. La seule différence, c'est qu'on ne les entendait pas, ou en tout cas, les Brésiliens n'étaient pas prêts à les entendre.
Vous savez qu'ici, on est à la radio des sans-voix. FPP, c'est son slogan.
Ah bon, la radio des sans-voix. Bah, en fait, ils ont une voix. La seule chose, c'est qu'on ne leur donne pas de micro. Mm-mm. Donc, je suis ravie d'avoir un micro aujourd'hui. et voilà, et au Brésil, ça fait une quinzaine d'années que toute une partie de la périphérie a vraiment décidé de se prendre en main et surtout de s'exprimer. C'est-à-dire qu'avant les années 2000, il y avait évidemment des livres qui parlaient de la favela, mais c'était très souvent des livres écrits par des gens de classe moyenne, des anthropologues, des sociologues, qui écrivaient sur les gens des favelas. Et à partir d'un moment, les gens des favelas ont dit bah, « maintenant, c'est nous qui allons écrire nos histoires ». Et là où moi, j'ai vraiment été fascinée par ce mouvement, c'est que j'ai vraiment vu le pouvoir mobilisateur de la littérature. C'est-à-dire que, soi-disant, des gens des classes sociales qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas, et bah, tout d'un coup ils se sont mis à lire, ils se sont mis à écrire, ils se sont rassemblés dans des espèces de cafés slam qu'on appelle des sarao, et c'est pas du tout un phénomène minoritaire, c'est-à-dire que tous les jours dans différents quartiers de São Paulo, de Rio, y a des centaines de jeunes qui se rassemblent pour ces cafés slam. Et après, en fait, c'était des jeunes qui écrivaient leurs textes et qui les lisaient. Et ceux qui avaient le plus de succès se sont dit, mais pourquoi pas faire un livre ? Donc au départ, c'était un peu bricolé, c'était de l'auto-édition. Et après, maintenant, les grandes maisons d'édition ont commencé à récupérer aussi ces jeunes. Donc maintenant, on a vraiment, quand je vais dans les grandes librairies de São Paulo, de Rio, bah, vous avez l'étagère littérature américaine, littérature italienne, brésilienne. Et dans la littérature brésilienne, il y a un petit coin littérature marginale qui s'étoffe d'année en année. Et là où je suis vraiment contente, c'est que ce n'est pas qu'un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'en France aussi, on a eu un petit peu notre mode littérature des banlieues, mais aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Ça a duré 5 ans, 6 ans. Alors que là, au Brésil, ça fait une quinzaine d'années, ça continue, voire ça continue.
Ça s'organise. En fait.
Ça s'organise. Et je pense que c'est vraiment pas prêt de partir. C'est-à-dire que ce n'est pas une mode. C'est vraiment devenu un style de littérature à part, parce que ces gens qui représentent 20-25% de la population, il est normal qu'ils aient aussi leur place dans la littérature et pas seulement dans les pages d'actualité des journaux.
Exactement. Et du coup, la parution que Je suis encore favela que vous avez sortie la semaine dernière, qu'est-ce que c'est exactement ? J'ai l'impression que c'est plusieurs histoires collectives qui sont rassemblées comme des nouvelles.
Voilà, c'est ça. En fait, le premier recueil qu'on a sorti, qui s'appelait Je suis favela, on l'a sorti en 2011. Et en fait, donc, c'est toujours ce principe de convier plusieurs auteurs différents. La plupart viennent effectivement des favelas, mais il y a quand même quelques auteurs de classe moyenne. Et je trouvais aussi intéressant que ces gens-là puissent aussi écrire sur la favela, qui est une réalité qui côtoie tous les jours. Donc, on a sorti Je suis favela en 2011. Et après, j'ai trouvé quand même que malgré tout, même si c'est de la littérature, c'était quand même un peu un miroir de la société. Donc en 2014, j'en ai sorti un autre qui s'appelait « Je suis toujours favela », où là, c'était un miroir de la société brésilienne des années Lula en pleine explosion. Donc c'est un recueil qui est d'ailleurs assez optimiste, où on voit des jeunes des favelas qui font des études, qui ont envie de s'en sortir, qui croient vraiment beaucoup à l'avenir. Et cette année, comme vous devez quand même suivre un petit peu l'actualité brésilienne, en ce moment, oui. Il y a un petit peu un nuage noir au-dessus de l'économie et de l'actualité du Brésil, et je me suis dit pourquoi ne pas ressortir un nouveau volume qui justement illustrera ce qui se passe en ce moment dans la tête de ces jeunes auteurs. Donc je trouve que c'est de nouveau un volume un petit peu sombre, mais en revanche qui est quand même plein d'espoir, parce qu'on voit que tous ces jeunes, ils n'ont absolument pas l'intention de se laisser faire. C'est-à-dire qu'effectivement, en ce moment, politiquement, c'est la catastrophe, économiquement, c'est dur, mais ils ont une conscience politique qui fait qu'ils ne se laisseront plus faire, et en tout cas, ils dénoncent. Donc par exemple, dans ce recueil « Je suis encore favela », on a des nouvelles qui parlent de violences domestiques, on a des nouvelles qui parlent de, évidemment, de narcotrafic, mais aussi de le fait d'être accro aux drogues, aux médicinales, les drogues qu'on achète en pharmacie. Il y a des histoires de corruption de la police, évidemment. Et puis, il y a aussi l'histoire d'un petit gamin de classe moyenne qui est super copain avec un gamin de la favela, qui est invité à dormir chez ce gamin de la favela. Et tout d'un coup, les parents bobos, qui étaient super contents que leur fils ait un copain de la favela, et ben, le fait d'aller dormir chez lui, tout d'un coup, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, il y a plein d'histoires qui, je trouve, représentent de façon assez authentique la favela, c'est-à-dire avec des côtés très sombres, mais aussi des côtés pleins d'espoir. Et puis surtout, ce sont des quartiers normaux, en fait. Les gens, ils vivent leur vie, ils travaillent, ils rentrent le soir. Donc, ils ont des tas d'histoires à raconter et pas seulement les histoires que TF1 veut bien nous montrer.
Vous aviez proposé tout à l'heure de nous lire un petit extrait du recueil.
Oui, si vous voulez. Donc, alors, ce petit extrait que je peux vous lire, c'est une nouvelle écrite par Diego Lanza, puisque dans ce recueil, Je suis encore favela, au total, il y a une vingtaine d'auteurs. Donc, il y en a qui sont plus confirmés que d'autres. Il y a par exemple Conceição San Evaristo, qui est une grande auteure confirmée au Brésil. Et ce Diego Lanza, c'est un jeune qui a écrit cette nouvelle en atelier d'écriture. Et moi aussi, ça me tenait vraiment à cœur de donner un petit peu sa chance à tout le monde. Et surtout, ces jeunes qui écrivent en atelier d'écriture, peut-être qu'ils écriront une nouvelle et puis ce sera la seule nouvelle de leur vie, mais peut-être que ça va devenir des écrivains plus tard. Donc je suis assez aussi contente de faire ce pari sur l'avenir. Et puis en termes aussi d'estime de soi, pour ces jeunes qui ont écrit en atelier d'écriture, qui habitent en favela, savoir qu'ils ont été publiés à l'étranger, en France, qu'ils sont lus à l'étranger, c'est aussi super valorisant pour eux. Donc cette nouvelle s'appelle « Le danger d'une histoire unique ». Et en fait, ça se passe dans une favela. Et là où j'ai bien aimé, c'est que en fait, c'est la même histoire vue par différents personnages. Donc, ça se passe dans une école. Alors, il y a la professeure qui vient d'arriver dans la favela, qui est un peu perdue, et il y a l'élève. Et donc là, le petit extrait que je vais vous lire, c'est l'élève qui raconte son point de vue sur cette histoire.
On vous écoute.
Il entend le blabla de la professeure sans quitter des yeux la naissance de ses seins que laisse entrevoir le décolleté de son chemisier. Soudain, des coups de feu, plusieurs coups de feu, beaucoup de coups de feu. Au début, les élèves les ignorent à moitié, l'habitude. Mais tout le monde commence à crier quand la fusillade devient plus forte, on dirait des bombes qui tombent. Il entend le prof d'éducation physique dire « Bon, on va attendre que ça se calme tranquillou, hein, on bouge pas d'ici. » « Je crois que ça se passe là-haut, tout en haut de la favela, madame, » dit-il à la prof de lettres, toute pâle. Sur WhatsApp, sa cousine lui dit que le BOP est en train d'envahir la favela. À ce qu'il paraît, les flics envahissent le haut du Moro. Panique à l'état pur sur le visage de la prof. Elle hoche la tête sans rien dire, en tremblant. Il a de la peine pour elle, la pauvre, déjà qu'elle travaille ici pour essayer de leur apprendre quelque chose, et en plus, elle est obligée de vivre ça. Dès qu'il l'avait vue, il avait eu le méga de coup de foudre pour elle. Lui veut attendre ici, il vaut mieux. C'est toujours ce qu'il fait dans ce genre de situation, et en plus, ça lui permettra d'être à côté d'elle plus longtemps. Mais son meilleur pote s'inquiète pour son frère et veut partir tout de suite. Il essaye d'argumenter sans réussir à le convaincre. Il part déçu. Dommage, il aurait pu en profiter pour tenir la main de la prof. Une fois passé le portail du collège, il tourne tout de suite à droite, grimpe 4 à 4 les marches de la passerelle. Plusieurs trafiquants les dépassent en courant, en canardant le commissariat juste à côté. Les balles perdues ne trouvent pas leur cible. Cri, précipitation. Son pote et lui traversent à toute allure la passerelle. Ils bondissent au-dessus des marches et se blottissent près des vendeurs de rue, cachés derrière leurs étals. Les mototaxis passent en trombe, la fumée de leur peau d'échappement envahit l'air, ça pue. « Cours, ici, putain ! T'es fou, cousin, reste là ! Je peux pas, faut que je retrouve mon frère !» Il voit son pote traverser la rue en courant, puis disparaître dans le raidillon du dessus. Lui reste caché dans la ruelle. Et ensuite, un tout petit passage, vous avez la vision du flic. Il a abandonné le char et avance à pied dans la favela. L'œil aguerri, attentif à chaque mouvement autour de lui, le doigt sur la détente du fusil, la sueur qui coule sur le visage, sous le casque. Il doit faire abstraction de ses soucis personnels. Clara est retournée chez sa mère il y a 3 jours quand elle a découvert qu'il l'a trompée. Mais il va résoudre la situation. Un cri, il commence à tirer. Il vise 2 trafiquants au coin d'une ruelle. Il court, plié en 2, lève son fusil. Tire. Il court en zigzag, échappe au coup de feu des trafiquants. Il tire. Tire, tire, tire. La vie se vide à chaque balle. La vie tombe sur le sol. Il s'en fout. On lui a appris à s'en foutre. Ce ne sont pas des vies, ce sont des cibles. Il remplit sa mission.
Merci Paola pour cet extrait.
Merci à vous.
et pour être venue sur les ondes à la radio. Merci beaucoup pour toute cette parole qui est essentielle aujourd'hui,
justement, je pense que
sur les marginaux et comment est-ce qu'on travaille ensemble, en fait.
Exactement. Donc, je pense que ces exclus, ils ont beaucoup de choses à dire, qu'il faut essayer de les inclure dans la société parce que c'est une histoire aussi de vivre ensemble. Donc, Je suis encore favela, vous pouvez le trouver dans les librairies ou aussi sur notre site internet, anacaona.fr, parce que toutes les librairies ne l'ont pas encore, mais sur internet, vous trouverez aussi un dossier sur les favelas, sur tous ces auteurs, sur notre site.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
A Vera morta próxima, sacrifícios aumentados redobram nosso parecer.
Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho.
Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para o poder, primeiro pão para se comer.
Un petit extrait d'O Melhor de Bunga, Lágrima no Canto de Olho. Et tout de suite, les brèves culturelles. C'est Mégaphone ce soir à Saint-Ouen, des concerts groove, hip-hop, jazz, soul et funk. Rendez-vous de 19h à minuit au 23 rue des Rosiers, métro Garibaldi, pour une full line-up de DJ set avec DJ Scandal, DJ Xyz et Dudes. L'entrée est ouverte et libre pour toutes et tous. Ce soir, à la Maison des Métallos, place à un débat sur celles et ceux qui ont fait mai 68 avec Ludivine Bantini et Gérard Miller. La Maison des Métallos est située au 94 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement de Paris, et elle ouvre ses portes à 19h. Le Chakirail propose tous les dimanches après-midi de 14h à 18h un vide-grenier, une visite des ateliers, du potager, de la bibliothèque ou encore donne des renseignements sur les salles de répétition ou sur les labos photos. Et ce dimanche, il y aura les portes ouvertes, mais il y aura aussi un vide-grenier, un goûter et un petit bar sur place. Venez nombreux et nombreux au Chakirail qui est situé au 72 rue Riquet dans le 18e arrondissement de Paris, métro Riquet. Demain samedi, c'est le vernissage de l'exposition « Objets d'études, bousculer les idées reçues autour des musées de la mode » à la galerie Le Cœur, une collaboration entre le musée de la mode d'Anvers et l'école Parsons Paris. Ils discuteront de la question de l'utilisation et du rôle des collections d'études pour les créateurs de mode et les professionnels du secteur. La galerie Le Cœur est située, elle, au 83 rue de Turenne, dans le 3e arrondissement de Paris, métro Fille du Calvaire. Et ne manquez pas, demain samedi, c'est le carnaval d'Evry dans le 91. Rendez-vous à 13h aux maisons de quartier d'Evry pour le grand départ, arrêt RER, Evry, Val-de-Seine. L'agenda est terminé pour aujourd'hui. Pour nous retrouver, une seule adresse, agenda.rfpp.net. On y met toutes les infos et les liens vers les événements dont on vous a parlé tout au long de l'émission. Vous retrouvez tout de suite l'actualité des luttes. Un grand merci à Semi qui est avec nous à la technique aujourd'hui. Notez que l'émission de l'agenda a été rythmée tout le long par le full album Pacifique de Haruomi Osono and his friends. À demain donc, même heure, même fréquence.